Bonjour et bienvenue dans Enquête Interne, le podcast proposé par Lefebvre Dalloz qui vous emmène dans les coulisses de la compliance. Tous les mois, nous plongerons en immersion dans le quotidien des professionnels de la compliance. Nous rencontrerons des experts qui nous diront comment est vécu en pratique ce sujet souvent perçu comme théorique. Grâce à leur retour d'expérience, leurs anecdotes, leurs réussites et peut-être leurs galères, nous comprendrons enfin les rouages de la compliance. Alors on embarque dans ce premier épisode avec Leslie Brassac, journaliste pour Actuelle Direction Juridique, et Stéphane Odana, rédacteur en chef de la solution Compliance et Éthique des Affaires. Ils se sont rendus tout près de la place de la Concorde, au cabinet Vigo, pour discuter avec l'avocat pénaliste Emmanuel Daoud, associé fondateur du cabinet et spécialiste en compliance, du premier pilier de la conformité, le fameux programme de conformité.
Le programme de conformité, c'est la politique interne d'une entreprise qui va lui permettre de garantir la parfaite adéquation de l'ensemble de ses activités avec les règles de l'anticorruption, les règles de concurrence ou encore les règles de vigilance. C'est donc le socle de la compliance, les fondations sur lesquelles repose l'ensemble de l'organisation. Et si tout professionnel du droit des affaires en a déjà entendu parler, ceux qui ont dû construire un tel programme ne sont pas si nombreux que ça. C'est le cas d'Emmanuel Daoud.
On a voulu savoir si avec l'entrée en vigueur de la loi Sapin 2, il y a de cela 4 ans, un profil type de société était venu toquer à sa porte. À l'époque, pour la première fois en France, le texte décrivait enfin les 8 thèmes du programme de conformité anticorruption imposé aux grands groupes, sous peine de sanctions pouvant aller jusqu'à 1 million d'euros. Aujourd'hui, les mentalités ont-elles évolué ? Qui se paye les services d'un cabinet d'avocats pour se lancer dans la compliance ?
Alors, il y a eu des secteurs d'activité qui ont été plus sensibles que d'autres, et notamment des secteurs d'activité qui avaient eu à connaître de dossiers pénaux qui avaient émaillé l'histoire judiciaire française avec des affaires qui avaient connu un fort retentissement. Et on peut par exemple parler du, sans citer de nom, du BTP, de la grande distribution et d'autres, des sociétés d'armement. Et donc ces secteurs d'activité, ces entreprises dans ces secteurs d'activité ont pu se considérer comme plus concernées. Mais je rappelle que pour que la loi Sapin 2 s'applique, il faut un certain seuil. C'est des entreprises d'une certaine taille, donc de grande taille. Mais un programme de conformité, il faut le dire aussi, et je souligne ce point parce que, en définitive, même si on sort du cadre pénal, ça rejoint la pratique pénale. Un programme de conformité, on peut aussi nous demander de le mettre en place en application de la loi vigilance. On peut nous demander de le mettre en place en raison de la loi Pacte, des déclarations de performance extra-financière. Donc, les plans de conformité, ça ne concerne pas simplement que le domaine pénal. Et par exemple, le secteur du textile, après malheureusement la catastrophe du Rana Plaza qui a abouti à l'adoption de la loi vigilance, est un secteur qui était proactif s'agissant des plans de conformité, respect des droits humains.
Mais vous sentez qu'à chaque fois, c'est une peur de la sanction qui a fait réagir les sociétés?
Si l'on m'avait posé la question en 2016-2017, j'aurais répondu oui, c'est la peur du gendarme, oui, c'est la peur d'avoir à gérer un dossier pénal ou des contrôles qui se seraient mal passés avec des enjeux réputationnels qui terniraient l'image de marque de l'entreprise en 2021. C'est moins vrai et je peux même affirmer qu'il y a des entreprises, et parmi ces entreprises, parce que comme disait le doyen Carbonnier, j'ai jamais dîné avec une personne morale, des hommes et des femmes qui se saisissent de l'outil de la conformité pour faire avancer le respect des droits humains, et s'agissant évidemment de la loi Sapin 2, d'être beaucoup plus efficace quant à la lutte contre les atteintes à la probité. Et puis il y a d'autres acteurs aussi qui vont inciter les entreprises à être plus vertueuses, les ONG, les fonds d'investissement.
Du coup, est-ce qu'il y a des structures plus petites, a priori non concernées par les lois dont on parle, qui elles aussi se mettent dans un programme de conformité consciente de tout ce qu'on vient de dire ?
Oui, il y a des structures plus petites qui ne sont pas soumises à un plan de conformité, mais par exemple dans la loi Sapin 2, s'agissant des dispositifs d'alerte et de signalement, c'est les entreprises ayant 50 salariés et plus. Donc tout le tissu économique s'agissant d'un des piliers de la conformité est concerné. Et dans les travaux que l'on peut nous demander, cela peut être, par exemple, s'agissant de la loi Sapin 2, de développer ce plan de conformité autour des 8 piliers. Aujourd'hui, au vu des nouvelles recommandations, des 3 piliers. Mais on a des entreprises qui peuvent nous demander de regarder uniquement le dispositif d'alerte éthique. Une entreprise X, très connue, m'a demandé, je ne sais pas si choisiront l'offre qui sera celle du cabinet Vigo, d'accompagner en formation professionnelle ceux qui sont les garants de, du traitement des signalements en interne. Ils sont très matures, c'est une entreprise qui a connu pas mal de déboires, mais ils considèrent qu'ils doivent aller encore plus loin dans la formation des personnes qui traitent les signalements pour rendre le dispositif d'alerte éthique, bien plus performant. C'est dire que les demandes, elles sont parfois très pointues, très techniques. On peut nous demander aussi, est-ce que l'on a l'obligation de mettre en place un plan de conformité? Réponse non. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être utile? Si vous avez des concurrents qui sont très présents sur le plan de la conformité et qui en font un axe de communication, ne pas le faire peut vous priver de recruter des talents, peut être un avantage, plus exactement un inconvénient sur le terrain de votre compétitivité. Cela peut être aussi exigé parce que dans le cadre du développement d'une PME, d'une ETI qui va chercher des fonds privés ou des fonds publics, notamment sur des opérations de croissance externe ou des financements de projets internationaux, vous allez avoir des bailleurs de fonds qui vont exiger qu'il y ait des plans de conformité, même si cette entreprise n'est pas soumise en raison de son seuil. Parce que c'est garant de la probité. Ça va être garant du respect des droits humains, notamment sur des chaînes de valeur où il y a des sous-traitants de premier, deuxième, troisième rang qui sont dans des pays plus ou moins lointains. Dernier exemple en date, et il faut s'en féliciter évidemment, en 2020 et même en début 2021, la question de la réalité de la parité homme-femme, de l'égalité des rémunérations, de l'accessibilité aux instances dirigeantes, est devenu un sujet, un risque qui est plus identifié dans les entreprises.
Alors justement, quand vous êtes saisi pour préparer un programme de conformité, qui décroche son téléphone? C'est le dirigeant lui-même, c'est le directeur juridique. On vous demande d'y aller, de venir voir les locaux. Tout se fait à distance. Comment ça se passe?
Le premier cas de figure, on peut conseiller des clients depuis des années. Moi, je suis l'avocat de grandes entreprises depuis 92, 93, 94, 95, et nos interlocutrices ou interlocuteurs changent, mais il y a cette relation de confiance avec le cabinet. Donc, on les accompagne s'agissant de la prévention des risques, et donc, on va leur proposer, dans le cadre de la veille, des échanges permanents, en disant, il faut y aller. Et le directeur ou la directrice juridique, le directeur ou la directrice de la compliance va présenter, entre guillemets, le bébé à la direction générale, et on dit, bah tiens, on va faire une réunion d'information. Et puis, les cabinets d'avocats qui ont une crédibilité sur le sujet vont être listés ou shortlistés, et on reçoit tout d'un coup, voilà, nous souhaitons passer à la phase 2 de notre programme de conformité loi Sapin 2, nous avons vu que vous avez beaucoup écrit sur le sujet, ou nous savons par le bouche à oreille que vous êtes quelqu'un de a priori compétent sur le sujet, voilà notre programme de compliance, voilà les points qu'il faut améliorer. Ça m'est arrivé la semaine dernière, j'étais un peu loin en train de travailler, mais j'ai eu une visioconférence où la directrice de la compliance et son directrice juridique et de la compliance et une de ses adjointes nous ont adressé préalablement leurs besoins. Et on a répondu avec une consoeur du cabinet en disant « voilà ce qu'on peut faire pour vous ». On a été choisi il y a plus d'un an, un an et demi, par une grande multinationale. Et donc, on nous a envoyé toute une série de documents dans le cadre d'un appel d'offres. Ils avaient identifié 10 ou 12 cabinets de toute taille, des cabinets entre guillemets franco-français ou des cabinets français mais intégrés dans des réseaux anglo-saxons. Donc, on a répondu et un jour, nous avons été invités, convoqués devant 5 personnes, le directeur juridique, la directrice de la compliance, le directeur ou directrice juridique sur tel ou tel département, on a présenté notre offre et ils nous ont posé des questions. Et là encore, l'avocat ou l'avocate, il fait un exercice de pédagogie et de conviction.
Et quand vous avez été retenu dans le cadre de ces appels d'offres, est-ce que vous savez sur quels autres critères vous avez pu être choisi?
On a été choisi aussi pour des questions de coût, puisque il faut, c'est des réponses à des appels d'offres où vous devez évaluer des forfaits, il y a des options, des livrables, c'est aussi très, très, très technique. Et je dois dire, parce que je veux être sincère, que ce n'est pas cet aspect-là des choses qui me passionne et que peut-être je suis un avocat de la vieille école, mais je ne pensais pas, lorsque j'ai prêté serment en 1988, que j'allais devoir aussi présenter des propositions chiffrées. Mais si on a cette réflexion, il faut qu'on change de profession comme avocat, parce que c'est la donne, et c'est normal que l'on rende des comptes, et c'est normal que l'on propose des budgets, et c'est normal que l'on propose des devis, et que l'on dise aux gens « ça va vous coûter ». Combien ? Et donc, dans notre cabinet, on a des coûts de structure qui sont moins importants que certains de nos confrères consoeurs et qui sont nos concurrents, c'est une certitude. On a aussi, disons que notre réputation comme pénaliste, on a plus besoin de la faire. De la même façon que l'on sait, ça peut avoir aussi son importance, je ne sais pas avec quel degré d'intensité, que lorsque vous êtes un avocat ou une avocate qui avait eu à gérer des dossiers médiatique. Et ces domaines-là peuvent être des dossiers médiatiques. Parce que, par exemple, les ONG ont des et c'est normal, ont des actions de plaidoyer et d'interpellation publique. Si vous êtes à l'aise dans la gestion de crise, dans la prise de parole, quand je dis à l'aise, pas de façon prétentieuse, parce que vous avez déjà été confronté à cela, ça va jouer aussi de façon positive. Et parfois, peut-être que ça va jouer de façon négative. Cet avocat ou cette avocate parle trop. Mais je crois que c'est un plus. Mais bon, il faudrait interroger ceux qui décident et celles qui décident pour qu'ils nous disent comment faire, parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas faire encore, peut-être.
Moi, j'ai une question qui est peut-être un peu naïve, mais quand on fait appel à vous pour faire un plan de conformité, en fonction de la structure qui vous appelle, vous voyez tout de suite peut-être le temps que ça va vous prendre, c'est plus ou moins compliqué. Est-ce qu'en termes humains, vous savez déjà combien de temps ça va prendre?
Merci de poser la question. Lorsqu'on répond aux besoins, on est capable de dire on sera 1, 2, 3, 4, 5 avocats. Et on l'affiche et on le dit. Et on met les taux horaires. Et on va même préciser analyse des documents. Et évidemment, analyse des documents, ça va être réservé à un avocat ou une avocate plus junior dont le taux horaire sera moindre. Et relecture, décision stratégique, etc., je serai là. Et si on a dépassé le forfait de façon trop importante parce qu'on a mal évalué les choses, entre guillemets, la paume, c'est pour nous. Lorsque le client ou la cliente nous a demandé des choses qui n'étaient pas prévues, il faut avoir le courage, la sagacité, la lucidité pour dire stop, il faut qu'on renégocie. Parce que ce sont des missions qui sont très chronophage. Il y a eu d'autres cas de figure où, à la demande des clients, on l'a proposé ou on nous l'a demandé ou on a pressenti que c'était la proposition que nous devons faire. Nous avons détaché un avocat ou une avocate, parfois pendant 6 mois, 2 jours par semaine ou 3 jours par semaine. Parce que, en définitive, c'était d'abord nécessaire pour accompagner au quotidien pour mener les entretiens des fonctions clés, pour assurer la formation des personnes qui allaient ensuite participer au e-learning, etc. Mais aussi parce que faire un forfait jour pour ce détachement, c'est moins cher qu'évidemment que de faire tourner, comme l'on dit trivialement, les compteurs. Une de mes premières expériences pour un grand groupe, ça a été de voir le directeur juridique groupe il y a quelques années. Je vais pour mettre en un plan de conformité et les accompagner alors qu'une enquête AFA avait été déclenchée. Je vais voir cette personne à sa demande. Je commence à lui dire qu'il y a 2 ou 3 trucs à faire. Et il me répond, on n'en a rien à foutre de ce genre de choses. On est obligé de le faire. Et ça ne fait qu'engraisser les avocats et les auditeurs. Voilà ma position. Et je lui ai répondu, monsieur, mais pourquoi vous m'avez appelé? Alors, vous savez, on ne va pas perdre de temps. Je pars. Quand vous êtes un avocat qui avait quelques heures de vol et qui avait un portefeuille de clients très varié, vous pouvez dire cela même à un très grand groupe qui est potentiellement un nouveau client, parce que c'est une question de déontologie, d'indépendance. Ce n'est pas toujours simple en pratique à faire lorsque vous êtes un jeune avocat et que c'est un client qui peut être très important. Finalement, il m'a rattrapé par la manche, parce que manifestement, c'était quelqu'un qui était assez provocateur, et on a bossé ensemble. Et on a bien bossé ensemble. Mais ce n'est pas toujours simple.
Durant votre mission, est-ce que vous avez déjà pris connaissance de faits très très graves, par exemple de corruption ou d'autres faits? Et dans ce cas-là, comment avez-vous réagi en fait?
J'ai déjà, au cours de ma mission ou de nos missions, identifié des risques pénaux ou la commission d'infractions. Pas forcément d'ailleurs en matière d'atteinte à la probité, mais par exemple en matière de droit pénal du travail, droit pénal social, par exemple, ou en droit pénal de la consommation. Dans cette hypothèse-là, on ne soulève pas le tapis, on ne prend pas sa balayette, on ne met pas la poussière sous le tapis. On fait de la prévention du risque pénal. Donc on dit, là, il y a une difficulté. Il faut traiter cette difficulté. Si, par exemple, on s'aperçoit que dans telle ou telle filiale, il y a le recours à de la fausse sous-traitance et c'est du travail dissimulé. Pardonnez-moi, du pré-illicite de main-d'œuvre et du délit de marchandage. On ne peut pas rester les bras croisés. On dit, là, on a identifié cela. Et le client va soit confier le dossier à son avocat habituel en matière de droit pénal du travail, soit va nous dire, finalement, on ne l'avait pas vu, vous le traitez. Et on essaye de trouver une solution pour le traiter, avec tout le panel des outils qui sont en notre possession, qui ne vont pas forcément nous conduire à aller voir le parquet pour lui dire « Coucou, on a trouvé quelque chose ».
Est-ce que vous avez déjà été confronté à des collaborateurs ou à des dirigeants qui n'ont pas été justement coopératifs ?
Il y a des personnes qui peuvent vous tenir un langage. Écoutez, on n'a pas besoin d'un avocat pour nous expliquer comment respecter la loi et les règlements. Nous, on est compliant et donc je dois passer une heure avec vous, on passera 10 minutes. Je ne vais pas prendre affaire à souder et torturer mon interlocuteur pour qu'il passe une heure avec moi. J'essaye de lui expliquer qu'il commet une erreur, que ce n'est pas comme ça que l'on doit faire. Et non pas pour être dans la délation, mais pour dire les choses telles qu'elles sont, suivant la méthodologie, pour établir une bonne cartographie des risques. Je dirais à mon interlocutrice ou à mes interlocuteurs, on n'a pas pu faire l'entretien, on n'a pas pu voir les collaborateurs parce que cette personne s'y est opposée. Je ne la dénonce pas, je dis, j'ai pas pu faire mon travail. Et dans ce cas-là, deux options que l'on rencontre souvent. La première, c'est oui, c'est vrai qu'il est très compliqué. On va se débrouiller nous-mêmes pour avoir les éléments de réponse sur la base du questionnaire que vous avez préparé. L'autre réponse, c'est faire intervenir le directeur général ou la directrice générale et ça va aller.
Un programme de conformité, c'est jamais terminé finalement. Parce qu'il faut le mettre à jour, il faut le suivre. Quand est-ce que vous considérez que votre mission, elle est terminée pour le coup?
Si on nous a demandé de livrer les 8 piliers Sapin 2 et qu'on les a livrés, c'est terminé. Quand on nous a demandé de faire la cartographie des risques, d'écrire le code de déontologie, d'écrire la politique cadeau et qu'on a terminé, on a terminé. Bien sûr, si on a des personnes qui, comme interlocutrices ou interlocuteurs, qui connaissent la matière, qui la maîtrisent, elles savent que c'est un chantier permanent. J'acquiers un nouveau groupe, je dois revoir ma cartographie des risques. J'investis dans tel pays, je dois revoir ma cartographie des risques. Il y a des nouvelles règles qui ont été prises. Par exemple, il va y avoir une loi vigilance à l'européenne, la directive. C'est clair que ça va avoir un impact sur les cartographies des risques. La loi allemande qui est en gestation est une loi qui va prévoir des sanctions qui n'ont rien à voir avec les sanctions de la loi vigilance à la française. Donc tout ça doit être intégré. Mais les clients sont libres de venir nous ressolliciter ou pas. Où on a bien travaillé, ils sont en confiance, on a respecté les budgets et on a fait notre travail correctement et évidemment, naturellement, ils reviendront nous voir. Ou ce sont des entreprises qui, à chaque fois qu'il y a des missions qui dépassent un certain budget, elles ont l'obligation de lancer des appels d'offres. Elles lanceront des appels d'offres et on sera peut-être pas choisi.
Et est-ce que vous pouvez nous raconter une de vos expériences les plus marquantes ?
Une de mes expériences les plus marquantes, c'est d'avoir été dans plusieurs filiales d'un groupe pour élaborer le plan de conformité Sapin 2. Et donc, on était vraiment dans un pôle, je ne peux pas donner le nom, dans un pôle d'activité qui comprenait plusieurs filiales. Et on faisait notre travail. Et du jour au lendemain, la société mère et les juristes de la société mère nous ont appelés pour nous dire « il faut que vous veniez à nos côtés » parce qu'une enquête AFA était déclenchée dont ils n'avaient pas tenu informé le pôle en question. En revanche, les juristes de ce pôle, à leurs supérieurs hiérarchiques et à leurs collègues, ont dit « on bosse super bien avec Vigo ». Et comme ils n'arrivaient plus à maîtriser les questions des contrôleurs de l'AFA et comme ils ne savaient pas comment s'en dépatouiller, ils nous ont demandé, on n'avait rien fait, de venir et du coup on s'est occupé de tout. Mais pourquoi c'était marquant? D'abord, c'était de se dire que dans des boîtes, il y a des pôles qui ne savent rien de ce qui se passe, alors qu'il y a une enquête AFA qui va les concerner aussi. Donc, parfois, il y a des fonctionnements en silo. C'était aussi marquant parce que l'on est arrivé, alors que le contrôle AFA était déjà déclenché et que donc il a fallu se mobiliser de façon très importante, et on n'est pas un cabinet de 150 avocats. Donc, et parmi les 19 avocats du cabinet, nous étions 4 ou 5 à pouvoir suivre de façon pertinente ce type de contrôle AFA. Et donc, il a fallu non pas abandonner les autres clients, mais travailler de façon très intensive. Et les collaboratrices, puisque nous étions 5 et 4 avocates, elles se sont vraiment mobilisées. Et ça a été marquant parce qu'on a réussi à éviter la saisine de la commission des sanctions. Ça a fédéré notre groupe. Nous nous sommes éprouvés dans un moment d'intense activité avec des allers-retours permanents, avec des décisions à prendre très très vite, avec la confiance des clients qu'il fallait acquérir parce qu'on ne les connaissait pas. Et c'est une expérience marquante parce que ça s'est bien passé, mais avec des sueurs froides. Et c'est clair que si les avocates qui étaient à mes côtés à l'époque n'avaient pas été là, on n'aurait pas réussi, et tout le mérite leur en revient.